Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos quatre intervenants que je vais vous présenter au fil de leurs interventions d'être parmi nous et de nous faire profiter de leur éclairage sur cette table ronde qui s'appelle « Lutter enfin contre le changement climatique ». Alors deux chiffres, 85% des Français qui se disent inquiets du dérèglement climatique et 30 ans de perdu dans la lutte contre ce dérèglement. La conséquence, c'est qu'il faut aller vite et fort. On a l'état des lieux, on a des objectifs. Les instruments, on les connaît, mais on n'est peut-être pas tous d'accord sur ce qu'il faut mettre en œuvre. On va parler de toutes ces questions donc avec vous quatre. Je vous donne le mode d'emploi rapidement. Chacun aura d'abord 7 minutes de parole personnelle préliminaire. Et puis ensuite, vous aurez un temps de questions. Alors, je propose de passer d'abord la parole à Kathleen Schubert. Vous êtes économiste et vous êtes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à l'école d'économie de Paris. Alors, vous allez nous parler de cet état des lieux, justement. Où est-ce qu'on en est dans la situation, dans les objectifs et dans les instruments qui sont sur la table? Merci beaucoup.
Oui, donc je vais peut-être juste un peu introduire ce sujet que vous ne connaissez pas forcément très bien tous. Donc très rapidement, je crois que aujourd'hui le monde scientifique, enfin les publications scientifiques et les travaux accumulés ne laissent absolument aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique. Bien qu'il y ait encore des gens qui n'y croient pas, mais en réalité, on a vraiment une évidence monstrueusement flagrante pour dire que le changement climatique est une réalité et que par rapport à l'ère pré-industrielle, disons, la température a déjà augmenté aujourd'hui d'un degré à peu près. Sur ce plan-là, le constat est parfaitement clair. Sur le plan de la politique économique, c'est plus compliqué. Moi, mes étudiants me disent « Madame, c'est bien joli tout ça, mais votre génération vient de perdre 30 ans. Au moment du protocole de Kyoto, nous, on n'était pas nés, et puis il ne s'est pas passé grand-chose depuis. » Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, je pense, c'est où sont les blocages sur le plan de la politique climatique. Parce que donc l'heure est plus à remettre en cause le constat, hein. Donc où sont les blocages sur le plan de la politique climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon assez modeste pour relancer une action climatique forte qui est vraiment indispensable si on veut que vous et vos enfants surtout ne vivent pas dans un monde trop chaud, clairement. Donc il y a différents niveaux. De façon intuitive, on pourrait se dire que le meilleur niveau d'action pour un problème comme le changement climatique, c'est le niveau international, évidemment, parce que c'est un problème global, un problème international. On pourrait, en termes d'économiste, on peut envisager le climat comme ce qu'on appelle un bien public global. La qualité du climat, c'est un bien public global. Et les biens publics doivent être fournis par des instances, mais il n'y a pas d'instance au niveau global. Vous n'avez aucune organisation mondiale du climat qui soit en charge de réguler le climat. Donc au niveau mondial, il n'y a pas moyen de faire autrement que de recourir à des négociations entre pays. Et c'est là que ça se gâte, bien sûr, parce que dans les différents pays du monde, vous avez des intérêts très fortement divergents quant au climat. Vous voyez bien, par exemple, que les intérêts des producteurs de pétrole ne sont pas du tout les mêmes que les intérêts d'autres types de pays. Donc les négociations internationales, c'est très compliqué. Après le protocole de Kyoto 97, ça n'a pas bien marché, on est arrivé à pas grand chose. On a maintenant l'accord de Paris, mais l'accord de Paris, c'est un accord volontaire. Ça veut dire que les pays ont dit ce qu'ils voulaient faire volontairement. Et évidemment, quand on fait le total des actions qu'ils ont décidées, ça suffit pas. C'est normal, c'est des accords volontaires. Si l'accord de Paris est respecté, on va aller à plus 3 degrés, disons, hein, à peu près. Donc voilà où on en est. Alors on a ensuite l'échelon national. Au niveau national, on peut prendre des politiques économiques qui vont aller dans le bon sens. On voit que c'est également extraordinairement compliqué. Donc les économistes vous diront, nous on sait comment on fait. La solution, on l'a depuis 1920, ça s'appelle PIGOU, les taxes pigouviennes. On met des taxes sur les activités polluantes, ça va inciter les gens à réduire leurs activités polluantes. Donc la solution théorique, on l'a. On a vu très bien récemment, mais ce n'est pas un cas spécifique à la France, hein, c'est la même chose dans tous les pays, qu'il y a des problèmes d'acceptabilité sociale, de mise en œuvre pratique, beaucoup plus compliqués évidemment que ce que laisse penser question théorique. Donc on l'a vu en France avec les gilets jaunes, mais c'est pas spécifique. Donc ce qu'on voit au plan international, c'est que les pays qui ont réussi à mettre en place des politiques climatiques sérieuses, en particulier fiscales, c'est des pays dans lesquels le niveau de confiance des gens dans leur gouvernement est élevé. Les gens pensent, en effet, que si le gouvernement dit j'augmente les taxes pour mettre en place, pour lutter contre le réchauffement climatique, ben les gens croient que c'est vrai. Il y a d'autres pays où les gens se disent ah ben non, mais c'est juste une manière de nous ponctionner de l'argent, voilà, où ils n'y croient pas. Et dans ces pays où la population a du mal à croire aux annonces en matière fiscale du gouvernement, c'est très difficile à mettre en place. Enfin, je pense que ça, on va en parler. Enfin, je vais juste l'évoquer. Pour le cas spécifique de la France, donc on a mis en place une taxe, une fiscalité environnementale en 2014. Pendant un moment, il ne s'est rien passé, en fait. Le taux initial de la taxe était très faible, donc personne n'a rien vu, je pense, plus ou moins. Et puis, au cours du temps, le taux de la taxe a augmenté. Et il y a eu, en 2018, il y a eu concomitamment une forte augmentation du prix du pétrole. Et là, les gens ont pris conscience que le prix de l'énergie était devenu vraiment très élevé, surtout d'ailleurs dû à l'augmentation du prix du pétrole, mais ça, on n'y peut rien. Ce qu'ils ont trouvé mal, c'était l'augmentation de la taxe. Et ils ont vu qu'en effet, l'augmentation du prix de l'énergie, ça avait des conséquences très importantes sur leur comportement. Donc, ce dont on s'est aperçu, à mon avis, à ce moment-là, c'est que y a ce qui n'avait pas été fait peut-être, ce qui manque, c'est un énorme effort de pédagogie, donc on l'a dit, pour expliquer réellement aux gens que cette taxe, elle est vraiment faite pour lutter contre le changement climatique, un. Et puis deux, un énorme effort pour faire comprendre aux gens et pour le mettre en place concrètement dans la politique économique, que les efforts allaient être justes, donc, bien partagés dans la population. Donc le président de l'Assemblée nationale l'a très bien dit tout à l'heure, si les efforts n'apparaissent pas justes, équitables, les gens ne veulent pas les faire. Et ça, je pense que ça a beaucoup manqué. Donc il y a une très grande, à mon avis, réflexion à faire actuellement en France sur comment, pour remettre sur les rails les mesures climatiques, comment faire que ce soit perçu comme juste et équitable dans la population. Donc en France, on a des tas de choses qui n'apparaissent pas justes. Par exemple, les gens vont payer plus de taxes sur l'énergie quand ils prennent leur voiture pour aller au travail ou pour amener leurs enfants à l'école, mais pas quand ils vont faire un week-end aux Maldives. Donc le transport aérien ne paye pas de taxes. Les agriculteurs n'en payent pas, les transporteurs routiers non plus, les taxis, bon. Donc il y a des tas d'exemptions comme ça. Les gens se disent, ok, mais pourquoi moi, petit Français, je vais faire un effort alors que les Américains ne veulent plus et les Chinois polluent beaucoup plus que nous. Donc ça aussi, c'est un élément qui rend la perception de la lutte contre le changement climatique très injuste au niveau national. Et puis enfin, vous avez le fait que les taxes carbone sont extrêmement régressives. C'est rare un impôt très régressif. En général, on fait des impôts progressifs. Mais là, les taxes carbone, il se trouve qu'elles sont très régressives parce que l'énergie a un poids plus élevé dans les budgets des agents plus pauvres. Et donc, il faut vraiment mettre en place un système d'accompagnement des plus pauvres, redistribution des recettes, etc. Voilà, donc je vous ai fait un tableau très rapide. Et maintenant...
Oui, merci beaucoup Kathleen Schubert. Alors je fais une parenthèse pour vous dire que les questions tout à l'heure, on les prendra au micro, donc n'hésitez pas si vous avez déjà des idées de questions à les noter, et puis un micro circulera. Voilà, alors je reviens à vous, Alain Grandjean, économiste et président de la Fondation Nicolas Hulot, et vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat qui a été instauré par Emmanuel Macron.
Comme la usine de gauche.
Pardon ?
Comme ma voisine de gauche.
Voilà. Oui, effectivement, je n'ai pas précisé pour Kathleen Schubert. On a entendu cet état des lieux de Kathleen Schubert et notamment cette question de l'acceptabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui coince dans la mise en œuvre des instruments ? Est-ce que certains vous paraissent plus pertinents que d'autres ? Vous avez 7 minutes aussi, merci.
Bon, je vais essayer de tenir en 7 minutes. Bonjour, merci beaucoup d'être venu très nombreux ce matin, ça nous encourage. Et je ne vais pas refiler la patate chaude aux jeunes, hein, parce que c'est le coup classique. Allez-y, mobilisez-vous et ça ira beaucoup mieux. On va faire ça de manière un peu plus habile. Je voulais juste pointer deux facteurs qui me semblent très importants. Le premier était issu d'une analyse assez simple qu'on a fait. Donc, par ailleurs, je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle Carbon 4 qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et on s'occupe beaucoup de la question de qu'est-ce que c'est que le bilan carbone d'un Français moyen, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone d'une entreprise, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone de la France, etc. Et on se rend compte, en travaillant un petit peu sur cette notion de bilan carbone, c'est-à-dire chacun d'entre nous émet des émissions, émet du gaz à effet de serre, par ses gestes au quotidien et y compris par ses achats donc certains de ces gaz à effet de serre sont faits très loin de la France. On s'est posé la question de savoir si on devient chacun d'entre nous vertueux, voire héroïquement vertueux. De combien on fait baisser ces émissions de gaz à effet de serre. Alors les ordres de grandeur, hein, pour la faire extrêmement simple, c'est que chacun d'entre nous en moyenne, sauf que ceux qui sont des consommateurs frénétiques de l'avion, ça se promène autour de 10 tonnes de CO2 équivalent par an, grossièrement en France. C'est l'ordre de grandeur. On va pas être à 5% près. Alors si on est héroïquement vertueux, c'est-à-dire on fait tous les gestes qu'il faut faire, mais le seul point qu'on dit, c'est non, vous dépensez pas d'argent. Hein, donc vous êtes juste vertueux par votre comportement. On verra après la question de l'argent. On s'aperçoit que, en étant vraiment héroïque, donc on passe entièrement végétarien, dans la maison, mais la température de consigne à 18, on fait du vélo autant qu'on peut, etc. Mais il y a des endroits où on est vertueux, mais on a quand même besoin de prendre sa voiture, parce que pour aller bosser, il faut sa voiture. Bon, bref, les ordres de grandeur, c'est que on fait moins 20%. Évidemment, il est hors de question d'envisager de considérer que chacun d'entre nous va devenir héroïquement vertueux. Les enquêtes sociologiques montrent qu'il y a au moins 20% d'entre nous qui, de toute façon, ne font rien, ou même le contraire, et qu'il y a les plus héroïques, c'est maximum 20%. Bon, donc, l'accord de Paris et l'horizon 2050, c'est diviser notre bilan carbone, quelque chose comme un facteur 5. Donc, c'est pas faire moins 20%, c'est faire moins 80%. Bon. Donc, le gap entre les moins 20 et 80, là, il faut mettre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, l'argent, il faut le mettre soit de nous, c'est-à-dire changer de voiture, rénover sa maison, acheter acheter des équipements qui nous permettent de consommer moins. On a un appareil qui consomme beaucoup, il faut acheter pour le remplacer. Bon. Nous, mais ça fait encore qu'une toute petite partie du chemin. Malheureusement, pour passer du moins 20 à moins 80, le contenu en carbone de l'énergie qu'on utilise tous les matins. Là, en ce moment, quand vous y êtes pour vraiment rien, hein, vous utilisez une voiture, il y a du pétrole dedans, ça met du CO2, et ainsi de suite. Et deuxièmement, tout ce qui est de l'ordre des infrastructures, c'est-à-dire que si vous habitez en plein milieu de la Pampa, évidemment, et qu'il n'y a pas de transport en commun, ben vous y êtes pour rien, hein, c'est juste que ça. Alors, mon propos n'est pas de déresponsabiliser les ménages, c'est juste de se dire c'est quoi la part des uns et des autres. Donc il y a une part qui est chacun d'entre nous, il y a une part qui est les entreprises, les énergéticiens et tous les gens qui utilisent, qui développent des moyens, qui utilisent de l'énergie. Et puis pour finir, il y a la puissance publique, qu'elle soit nationale ou territoriale. Donc en français, de manière très très simple, vous me dites quand il me reste plus que 2 minutes, s'il vous plaît, parce que moi je vais être très bavard, je vais avoir du mal à tenir 7 minutes. Ça va encore ? Bon, en français, dans le texte, ça veut dire qu'il faut investir. Alors, si vous me poussez dans mes retranchements, je vais vous dire, c'est pas compliqué, la solution, il faut consommer moins, investir plus. Consommer moins mieux et investir plus mieux. En termes des grands équilibres macroéconomiques, c'est comme ça que je le vois. Investir, donc mettre de l'argent pour rénover nos infrastructures, mettre de l'argent pour rénover nos bâtiments. Alors, c'est pas des petites sommes. Hein. 30 millions de logements, mettre 20 000 euros par logement de 100 mètres carrés, qui est vraiment le strict minimum pour avoir une rénovation de bonne qualité qui réduit sensiblement la facture, c'est un petit 600 milliards. Bon, donc là, on parle d'un trillion d'euros d'ici 2050 pour avoir des logements qui sont de bonne qualité. Alors maintenant, un des blocages que je vois et je mets en évidence dans le livre dont Pascal a eu la gentillesse de me faire la pub, crac, j'en refais, il y a la télé, bon, je veux dire, ça va attendre, ça c'est le titre de l'éditeur, hein. C'est de privilégier les dépenses d'investissement dans les dépenses publiques, versus les dépenses de fonctionnement. Malheureusement, on a une règle stupide qui a des qualités d'un certain point de vue, mais qui est totalement stupide de notre point de vue, qui est une règle de limitation du déficit budgétaire public à 3%, et puis il faut même réduire encore ce déficit, voire avoir un excédent si la dette publique est supérieure à 60%. Cette règle mélange dans son calcul les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc ce qui s'est passé en Europe, très massivement depuis la crise financière de 2008, c'est l'effondrement de la dépense publique d'investissement, ce qui est tel qu'aujourd'hui, là j'ai regardé, j'ai vérifié dans tous les coins, ce qu'on appelle l'investissement public net, hein, c'est-à-dire l'investissement réalisé moins la dépréciation du capital public existant, et devient négatif en Europe. Donc c'est-à-dire qu'on ne reconstitue même pas son capital. Au moment où il y a des débats sur la règle de Maastricht, il y avait d'autres options qui étaient envisagées. Le Conseil d'analyse économique, on a ici une représentante très digne, par la voix d'Olivier Blanchard, avait recommandé une autre règle, qui est celle que je propose, c'est-à-dire qu'on sépare dans ses calculs la dépense d'investissement de la dépense de fonctionnement, et notamment aujourd'hui, compte tenu de l'urgence climatique, et du fait que l'investissement dans la lutte contre le changement climatique, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas dans 5 ans, hein, il y a des effets reports, des effets terribles d'inefficacité si on attend, c'est maintenant qu'il faut faire ce changement. Alors après, je vais maintenant très vite à la solution, pour y arriver à ce petite modification anecdotique, c'est pas la peine de refaire un traité en fait de l'Union européenne, il faut juste s'y mettre, s'y coller, et il se trouve que là on a regardé ça en long, en large et en travers, et donc c'est l'objet de notre petit bouquin, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle des marges de flexibilité qui nous permettent dans un certain nombre de cas d'envisager cette solution et donc d'augmenter aujourd'hui la dépense d'investissement tout en respectant dans l'esprit ce traité. Je m'arrête là parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire, mais j'avais droit à 7 minutes.
Très bien, merci beaucoup. On aura le temps pendant les questions de revenir sur telle ou telle proposition. Alors je vous propose d'écouter maintenant Delphine Bateau. Vous êtes députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie. Alors c'est intéressant parce que Alain Grandjean a parlé de dépenses publiques. On n'a pas beaucoup parlé de fiscalité pour l'instant. Alors je ne sais pas si vous allez vous orienter dans cette direction, mais en tout cas la question c'est à la fois quels sont les outils qui selon vous seraient les plus pertinents, et puis pourquoi aujourd'hui on est toujours un peu ça bug quoi, ça coince.
Parce qu'il y a d'abord pas de consensus sur le constat. Et je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'on reste quand même encore aujourd'hui dans une situation où les lycéens et les étudiants qui manifestent et qui sont en grève scolaire pour le climat ont manifestement davantage lu le résumé pour les décideurs du dernier rapport du GIEC que bon nombre des dirigeants et des dirigeants économiques, qui continuent de considérer que le réchauffement climatique effectivement est un vrai problème, mais pour plus tard. Et que ce serait un problème isolé de la question du fonctionnement global du système économique, que ce serait un enjeu, le climat, qui serait séparé de ce qui concerne la biodiversité, la raréfaction des ressources et un processus de destruction globale des écosystèmes et des équilibres écologiques sur la planète Terre. Donc d'abord, le premier problème, c'est que la gravité du constat et l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, elle n'est pas quelque chose qu'il faut considérer aujourd'hui comme acquis. Parce que si chacun comprenait qu'il s'agit désormais d'un enjeu de vie ou de mort et qu'il reste une dizaine d'années pour espérer faire des choses à peu près efficaces pour maintenir nos existences humaines dans un espace de sécurité qui permette de garder des territoires habitables, eh bien, en fait, on parlerait que de ça, du matin au soir, du soir au matin. On aurait toute une série de débats passionnants, du journal de 20 heures jusqu'à l'Assemblée nationale en permanence. En fait, quand on est face à un enjeu de vie ou de mort, on comprend que tout le reste est assez secondaire et dérisoire. On n'en est malheureusement pas là. Donc ça, c'est le premier élément pour moi de blocage. Le deuxième, c'est qu'en fait, la première décision à prendre est la plus simple, et d'arrêter de financer la destruction. C'est-à-dire, je souscris, moi je suis depuis des années les travaux d'Alain Grandjean, qui est pour moi une référence, non mais je le dis, et je remercie d'ailleurs cette matinale de se consacrer à l'écologie, c'est-à-dire de considérer qu'une des questions économiques les plus importantes du moment, c'est celle-là en fait. Donc je reviendrai ensuite sur la question de l'investissement, de la dépense publique et si vous voulez de la fiscalité. Mais la première décision à prendre, c'est d'arrêter de mettre de l'argent dans ce qui détruit, dans les énergies fossiles, dans la destruction du vivant. Par exemple, on met aujourd'hui 10 milliards d'euros pour la seule France sur une politique agricole commune qui finance les pesticides, lesquels nous rendent malades, détruisent les vers de terre, les insectes, etc. C'est-à-dire organisent la destruction massive de notre sécurité alimentaire future. De la même façon, les banques françaises ont ajouté 10 milliards d'euros par an dans le financement des énergies fossiles depuis l'accord de Paris sur le climat. De la même façon, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, quand elle refinance les banques, n'a pas de critères écologiques, c'est-à-dire le fait de dire aux banques, en fait, on vous demande, pour vous refinancer, on vous demande de ne pas investir dans les nouvelles centrales à charbon, dans les énergies fossiles, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'arrêter, et qui serait très très efficace, c'est d'arrêter en fait de financer, d'injecter de l'argent supplémentaire dans la destruction du climat, dans la destruction de la nature. Avant d'être un problème d'argent en plus, aujourd'hui, c'est la première chose à décider. Donc ça veut dire en fait changer aussi de conception des choses. Donc si chacun fait sa publicité... Donc moi, je recommande le livre d'Alain. Moi, j'en ai écrit un qui est le manifeste de l'écologie intégrale. C'est-à-dire, le bilan vaut pour la politique et vaut pour la politique économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on considère que l'écologie, c'est le job d'un ministre de l'écologie seul. Et qu'on pourrait garder en fait les règles du jeu du système économique sans les changer et faire de l'écologie à la marge. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, ce qui est le fondement, la cause de la destruction, c'est le fait qu'on est dans un système économique qui ignore les limites planétaires, qui considère que la croissance économique peut être infinie. Or, cette croissance économique, elle est basée sur la destruction gratuite de la nature. C'est-à-dire que le prix du pétrole n'intègre pas le coût des catastrophes liées au changement climatique, le prix des pesticides n'intègre pas le coût de la destruction du vivant, et on peut multiplier les exemples. On est dans un système économique dans lequel détruire la planète Terre, détruire nos conditions d'existence est gratuit, et c'est ça qui est à la source de la création de valeur ajoutée. C'est pas seulement le capital et le travail. Dans le capital, on écarte en fait la nature. Et donc il faut changer complètement d'approche aujourd'hui et considérer que l'écologie est l'urgence première. Les règles du jeu, par exemple, au niveau mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est Dominique Bourg qui cite toujours ce fait parce qu'il est majeur. La convention de la CNUC, dont procède les COP sur le changement climatique aujourd'hui, article 3, alinéa 5, dit que les actions en fait pour protéger le climat n'ont pas le droit de porter atteinte au développement du libre commerce international. Donc en fait, ça veut dire, si vous voulez, que le cadre dans lequel on est dit c'est un objectif secondaire. C'est pas prioritaire. C'est plus important d'augmenter encore les flux d'énergie, les flux de matière, d'augmenter la croissance économique que de rester vivant. Mais c'est ça fondamentalement qu'il faut changer. Donc, une fois que j'ai dit ça, je considère pas du tout que le problème aujourd'hui premier soit celui d'une acceptabilité des décisions à prendre. Je pense que le problème d'acceptabilité, il est d'abord celui des orientations générales du modèle économique dans lequel nous sommes et de ses dirigeants. L'exigence des citoyens, c'est une exigence de cohérence. Les citoyens ne peuvent pas comprendre qu'une taxe carbone est un fondement de justification écologique si en fait elle sert à autre chose qu'à l'écologie, ce qui est le cas. Ne peuvent pas souscrire à cette logique-là si en fait un certain nombre de moyens de transport qui polluent plus ne payent pas la taxe carbone. Donc il y a une exigence de cohérence que personnellement je partage et qui me paraît légitime. Et un des bilans qu'il faut tirer, et je finirai là-dessus parce que je suis probablement trop longue, c'est qu'en fait on est aussi au bout d'une histoire, si vous voulez, où la taxe carbone a été considérée, le prix du carbone est un instrument important, hein, qu'on ne me fasse pas dire le contraire, mais ça a été présenté comme le seul outil de politique économique écologique. Bon. Ben non, il n'y a pas que la taxe carbone. Il y a aussi l'investissement public, il y a aussi le fait de mettre des critères écologiques dans toutes les règles du jeu du système économique.
Merci beaucoup. C'est un député, donc un confrère qui va prendre la suite, monsieur Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord. Et vous êtes président de la commission des affaires économiques. Donc il y a eu beaucoup de propos sur changer le système économique, le système de tarification. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et puis j'ai un autre défaut. Je suis pas seulement député, j'ai une formation d'économiste. Donc il y a plus de 25 ans, je travaillais au ministère de l'économie sur les enjeux de l'environnement. Je peux vous dire qu'il y a 25 ans, au ministère de l'économie, ceux qui travaillaient sur l'environnement, ils étaient comptés sur les doigts d'un doigt. Et on prêchait un peu dans le désert. Heureusement, ça a un peu changé depuis. Donc je vais faire une minute d'économie et 6 minutes peut-être un peu plus de politique. Puisque c'est une matinale de l'économie et que dans la salle, il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'y intéressent. Vous savez tous ce que c'est qu'une externalité. L'externalité négative. L'externalité négative, c'est que quand vous prenez votre voiture pour faire le tour du périphérique, tout seul, vous polluez pas beaucoup, vous contribuez pas beaucoup au réchauffement climatique, et donc vous l'intégrez pas nécessairement dans votre comportement économique, mais que si 3 millions de Parisiens se mettent tous sur le périphérique en même temps, évidemment, ils vont contribuer de manière très forte au réchauffement climatique, d'autant plus que ça va créer des embouteillages infernaux qui fait qu'on va polluer encore plus. Et les économistes ont deux solutions pour gérer les externalités, les normes ou les prix. C'est-à-dire soit vous interdisez aux gens, peut-être une immatriculation sur deux, les pairs et les impairs, de rouler sur le périph, et là vous réduirez les externalités, vous réduirez la pollution, soit vous augmentez le prix, et donc vous taxez davantage l'essence par exemple. Et il faut reconnaître que ça marche. Quand vous augmentez le prix d'un bien, en général les économistes vous disent la demande baisse. Quand vous regardez, moi je suis député des Français d'Amérique du Nord, le prix de l'essence aux États-Unis, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Les Américains conduisent beaucoup plus, des plus grosses voitures, et pendant plus longtemps, et polluent beaucoup plus, et contribuent beaucoup plus au réchauffement climatique que les Français. Ça marche, et pourtant, on a frappé un mur, comme on dit, à l'automne dernier, puisque une augmentation, somme toute, assez marginale, 6 centimes par litre d'essence, de la taxe carbone sur les produits d'essence en France a littéralement conduit à des manifestations quasi insurrectionnelles en disant ras-le-bol, on peut plus. Alors pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça donne l'impression que ça ne peut plus marcher? Pour moi, il y a 2 raisons propres à la France et 3 contradictions qu'on retrouve partout quand on parle de transition écologique. La première raison assez française, c'est que d'une certaine manière, le combat écologique arrive un peu le dernier. On est en France le pays qui taxe le plus, et on est en France le pays qui dépense le plus. Et pour des très bonnes raisons, parce qu'on a décidé de financer notre modèle social, notre modèle de retraite, notre modèle de sécurité, notre modèle d'infrastructure, avec de la fiscalité et des dépenses publiques. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des dépenses publiques qui sont au-delà de 50% du PIB, et de la fiscalité qui est pas loin de 50%. Et donc quand vous rajoutez une taxe, si bien quand bien même elle serait écologique, le problème c'est pas l'écologie, c'est la taxe. Et donc on a un vrai défi aujourd'hui qui est que l'écologie arrive un peu la dernière dans la course à la taxe et à la dépense publique, et donc on s'est retrouvé avec ce ras-le-bol. Et donc si on veut un jour réintroduire ce genre d'instrument, il faudra avant tout travailler sur la baisse de nos dépenses et sans doute la baisse de la fiscalité sur d'autres sujets. Le deuxième, point particulier lié à la France, c'est que, on le dit pas assez, mais d'un point de vue des émissions de CO2, donc d'un point de vue du réchauffement climatique, la France est un des meilleurs élèves au monde. Certains diraient que c'est pour des mauvaises raisons, puisque c'est essentiellement lié au développement du nucléaire. Mais aujourd'hui, la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 0,5% des émissions. On émet par habitant 3 fois moins qu'aux États-Unis, 3 fois moins qu'au Canada, à peu près autant qu'en Suède. Donc évidemment, quand vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, même s'ils lèvent d'autres enjeux écologiques qui sont le traitement des déchets nucléaires pour simplifier, c'est plus difficile d'en faire davantage. Ça coûte toujours un peu plus. On sait bien qu'en France, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière importante, il faut vraiment taper dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut réduire le transport de manière importante avec déjà un essence qui est plus cher qu'à peu près partout, où il faut isoler les logements avec des dépenses importantes, parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de logements très mal isolés en France, sur lesquels il y aurait sans doute beaucoup à faire, mais à des prix importants. Trois points importants qui, là, concernent tout le monde sur le fait qu'on a du mal aujourd'hui à mettre en place une transition écologique dans les politiques économiques, dans les politiques publiques. C'est trois contradictions essentielles. Le premier, c'est un conflit d'horizon temporel. Pendant des années, on s'est dit, et ça a été dit tout à l'heure, l'écologie, c'est pour demain ou après-demain. C'est un sujet, mais qui ne nous concerne pas tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Alors que tout le modèle économique, Delphine l'a dit, mais aussi le modèle politique, à des horizons beaucoup plus courts. Vous êtes élu pour 5 ans, les actionnaires vous mettent de la pression pour que vous fassiez des résultats tous les 3 mois, et on s'interroge sur l'évolution du budget de la nation une fois par an. Ça, j'allais dire, malheureusement, cette contradiction, elle est en train de se gérer, puisque l'urgence climatique est devenue de plus en plus pressante. Et merci aux jeunes qui sont dans la salle de nous le rappeler régulièrement, on n'a plus le temps. Ça ne veut pas dire que ça simplifie l'histoire, mais au moins ce conflit inhérent, y compris pour un certain nombre de politiques, il est en train de disparaître. Deuxième contradiction importante, qui elle aussi, à mon avis, est en train de se simplifier, c'est la contradiction historique entre l'économie et l'écologie. On ne peut pas faire l'un sans sacrifier l'autre. Et ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un modèle économique qui est en train de se développer autour de la transition écologique, les énergies renouvelables, les batteries, les technologies de l'information qui peuvent amener à être plus économe en pollution, si je puis dire, pour une unité de production donnée, ben ça aussi, c'est un peu en train de s'améliorer. Je dis un peu parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a encore énormément de production d'hydrocarbures, d'énergie fossile, etc. La troisième contradiction, elle nous a, je dirais, éclaté en pleine figure il y a quelques mois, et c'est pas seulement une contradiction française, et celle-là, elle est plus compliquée à régler, c'est un conflit entre les territoires. Beaucoup, dans le monde entier, les gens qui sont convaincus qu'il faut faire des choses sont essentiellement des urbains. Et les gens qui aujourd'hui ont le moins de capacité à changer leur comportement sont essentiellement, non pas des ruraux, mais des gens qui vivent loin. Et donc qui doivent prendre leur voiture pour aller bosser, qui doivent prendre leur voiture pour se déplacer. Et cette fracture territoriale, elle est apparue en France quand même de manière assez flagrante à l'automne dernier. Elle est aussi présente au Royaume-Uni, c'est pas de l'écologie, mais le Brexit, c'était la même histoire, aux États-Unis, au Canada. Et ça, ça crée un vrai enjeu de politique publique. Parce que si vous dites, par exemple, on va augmenter la fiscalité écologique pour tout le monde, ben vous vous retrouvez avec des gens pour qui c'est beaucoup plus douloureux et en plus beaucoup plus difficile d'adopter leur comportement que pour d'autres. C'est beaucoup plus facile de faire du vélo, moi j'en fais à Paris, que quand vous devez faire 40 km pour aller au boulot. Et celle-là, elle est plus compliquée. Je pense qu'on est en train de réaliser que les politiques publiques doivent aussi intégrer la dimension territoriale, la dimension redistributive territoriale, dans la manière dont elles sont décidées et implémentées, et ça, c'est plus compliqué. Alors, très rapidement, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Einstein qui disait, si vous faites inlassablement la même chose, de la même manière, en attendant des résultats différents, vous serez déçus. Il faut changer de méthode. Et ça, je pense que Delphine l'a dit rapidement tout à l'heure, mais c'est essentiel. L'écologie, ça ne concerne pas que à l'Assemblée, la Commission du Développement Durable, au gouvernement, le ministère de l'écologie, dans les entreprises, celui qui est responsable de la politique durable et qui crée un rapport une fois par an. Il faut que ça concerne tout le monde. Nous, Delphine est membre de la Commission des Affaires économiques, je pense qu'elle le sait, on a essayé de beaucoup mieux travailler avec la Commission du Développement Durable que c'était le cas auparavant. Auparavant, c'était la guerre des tranchées entre les verts et les pas verts. L'histoire du Haut Conseil de défense écologique qu'a annoncé le président. L'idée, c'est simple, c'est de mettre autour de la table régulièrement tous les ministres, et pas seulement le ministre de l'écologie, qui sont concernés par la transition écologique. Pour dire, vous êtes tous concernés, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour assurer la transition? Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il faut que chaque ministre ait dans ses objectifs des objectifs de transition écologique. Et que ce soit pas seulement, je dirais, la caution, le porte-lance ou le porte-voix ou celui qui se bat dans tous les arbitrages ministériels qui doit l'emporter. Il faut aussi, je pense, et ça, ça a été dit tout à l'heure, davantage engager les citoyens. Moi, je crois beaucoup à l'histoire de la Convention citoyenne qui, là aussi, a été annoncée par le président, qui va rassembler des citoyens et des parlementaires pour travailler davantage de manière concrète à des choses qui vont permettre d'améliorer et surtout d'accélérer le mouvement, par exemple sur l'isolation des logements dont je parlais tout à l'heure. Ça a été fait en Irlande sur d'autres sujets, ça a marché, mais ça ne marchera qu'à une condition, c'est qu'on s'engage collectivement à ce que ce qui sortira de cette convention soit mis en œuvre dans la loi via des débats parlementaires ou via des référendums. Et donc je pense fondamentalement qu'il faut changer de méthode. Moi je crois beaucoup, et c'est peut-être là qu'on ne sera pas forcément d'accord avec mes collègues ici à la table, aussi à la responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire, je pense que sur la transition écologique, l'État ne peut pas tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il doit se laver les mains, mais on doit responsabiliser l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, les industriels, les ONG, de manière à ce que d'une habitude un peu française, qui est assez conflictuelle, dans le cadre duquel on a tendance à s'opposer, on soit davantage ensemble à chercher des solutions. Et donc je vais finir avec une toute petite controverse qui va faire sourire Delphine Bateau, mais on s'est opposé, par exemple, en hémicycle, sur l'histoire du glyphosate. Il y a eu un débat très virulent, et de mon avis assez intéressant et souhaitable, sur est-ce qu'il faut, alors que la France s'engage à sortir du glyphosate dans les 3 ans qui viennent, le mettre dans la loi. Je pense que proposait et soutenait Delphine, ou ne pas le mettre dans la loi. Et vraiment, je pense que les deux peuvent permettre d'avoir des solutions, mais il y a une approche différente. Si vous le mettez dans la loi, moi je considère que d'une certaine manière, on s'en lave un peu les mains au Parlement et on refile la patate chaude à ceux qui vont devoir le faire, et notamment les agriculteurs français qui risquent de devoir souffrir du coup de compétition injuste avec les voisins, ou soit on dit on va tous se mettre autour de la table, on va responsabiliser les acteurs, on va s'engager à en sortir, mais on va pas le mettre dans la loi. Et d'une certaine manière, le juge de paix, ce sera dans 3 ans, dans 2 ans maintenant, quand on verra ou pas si l'agriculture française a été capable de sortir du glyphosate de manière beaucoup plus accélérée que tous ses voisins européens. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup, merci Roland Lescure. Alors je propose qu'on passe à vos questions. N'hésitez pas à lever le doigt pour vous manifester. Il y a un micro qui va circuler. Alors on va les prendre 3 par 3 pour être rapide.
Didier Lenoir, président d'honneur du CLER, Réseau pour la transition énergétique. Il y a un gros problème en France, justement celui de la fiscalité. Et Bercy refuse absolument d'affecter les taxes et les impôts. Et le plus bel exemple est celui, effectivement, de l'essence, enfin des carburants, puisque cet impôt sur les carburants, en fait, le prix initial de l'énergie ne correspond qu'à 20% de la taxe sur les carburants. 80% de cette taxe, c'est général et ça va dans le budget. Alors, il faudrait que l'on puisse croire effectivement à la volonté de l'État de rendre les choses claires et de responsabiliser tous les acteurs, dont lui-même.
Oui, bonjour, Patrick Beau, président d'un comité d'intérêt local à Lyon. Mais tout à l'heure, j'ai entendu, concernant la remise de prix d'un livre, qu'il fallait de la croissance pour diminuer la pauvreté. Mais moi, je me dis après, on fait de la croissance, mais ça va augmenter la pollution, les problèmes climatiques, etc. Donc je suis déstabilisé sur cet aspect. D'autre part, là, pendant vos interventions, pas un moment j'ai entendu le problème de la bombe démographique. En France, chaque année, il y a plus 300 000 à 400 000 personnes en plus, donc 400 000 consommateurs en plus, je ne parle pas de travailleurs, et l'étalement urbain, la disparition tous les 10 ans de la surface d'un petit département. Donc, pour moi, on va dans le mur et Voilà, on ne mentionne jamais, c'est fait. Merci.
Merci. Une troisième question.
Merci beaucoup. Moi aussi, je voulais faire le lien avec la croissance et l'emploi et par rapport à la taxe carbone. Donc, le CAE, le Conseil d'analyse économique, a proposé de remettre sur la table la taxe carbone en affectant une partie, ou la totalité d'ailleurs, la totalité des recettes à accompagner les personnes en bas de l'échelle sociale ou même jusqu'au médian. Or, les politiques de l'emploi jusqu'à présent, qui ont eu beaucoup de succès, consistaient à baisser le taux marginal d'imposition net sur les bas revenus. C'est-à-dire, si vous introduisez, c'est le même débat qu'avec le RSA, si vous introduisez de nouveau des transferts sous conditions de ressources, eh bien, quand vous montez dans l'échelle des salaires, eh bien, vous perdez ça, et donc c'est une désincitation à travailler plus longtemps, à plein temps, etc. Donc, je me demandais si c'est pas plus simple de remplacer, enfin, quand on introduit une taxe régressive, de réduire une autre taxe régressive, et on en a une sous les yeux qui est la TVA. Je vais un peu avoir l'opinion du panel sur espèce de substitution entre taxe carbone et TVA. C'est beaucoup plus simple que de remettre en. De redéfinir des nouveaux transferts sous conditions de ressources qui vont déstabiliser l'ensemble des efforts qui ont été faits depuis plusieurs dizaines d'années.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose que les quatre intervenants répondent à telle ou telle question pour qu'on puisse en prendre une deuxième série.
Je vais répondre sur deux points. Sur la question de la démographie, il y a une question d'horizon temporel. Si on veut tenir l'accord de Paris, hein, rêvons quand même, qui est en dessous de 2 degrés, hein, c'est substantiellement. Toutes les décisions qu'il faut prendre sont des décisions qu'il faut prendre maintenant dans les années qui viennent. Hein. Donc c'est pas dans 50 ans. La démographie a une très forte inertie. Et donc le sujet de la démographie est extrêmement important pour la suite de l'histoire. Parce que l'histoire va pas s'arrêter demain matin, et donc évidemment toutes les politiques démographiques sont très importantes dans le deuxième horizon de temps, mais à très court terme n'ont pas d'effet sur le problème dont on parle maintenant. Bon, ça c'était ma remarque. Et alors l'autre point sur la question de la fiscalité, parce que j'en ai pas du tout parlé, parce que je voulais me concentrer sur un seul point. Bon, c'est un sujet qu'on connaît depuis des années. Moi, ma position comme ça, un peu vue de loin. C'est qu'il y a deux questions différentes. Il y a à court terme l'acceptabilité de cette affaire, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux des ONG, des think tanks, du CAE. C'est extrêmement compliqué de faire passer le message de le signal prix carbone, le signal prix fonctionne, donc il faut le faire fonctionner. Et puis après, deuxièmement, on voit ce qu'on fait de l'argent, et c'est un deuxième débat. C'est tellement compliqué qu'en fait on se convainc qu'on n'y arrive pas, et qu'il faut faire passer le signal prix, on le fait comme ça, et si on redistribue de manière très égalitaire, on pense que ça passera pas. Maintenant, ma philosophie, moi, de fond, à titre personnel, c'est un outil, un objectif en matière de fiscalité, ma philosophie personnelle. Donc c'est vrai que j'ai quand même tendance à considérer, je l'ai d'ailleurs écrit, que augmenter le signal prix carbone, ça a un effet régressif, certes, mais si on veut résoudre tout à fait une autre question, qui est le sentiment d'injustice fiscale, c'est l'ensemble des outils de la fiscalité qu'il faut mobiliser, et à mon avis, on a eu un tout petit problème de séquencement dans ce mandat-là, hein, qui est l'ISF d'abord, puis et la flat tax, puis la taxe carbone. Bon, donc moi, à mon avis, il me semble qu'il faut mettre sur la table la question. Alors, faut pas oublier de faire un grand bing bang, mais quand même fiscal. Mais c'est moi, ma tendance naturelle, ce serait plutôt de faire ça. Et donc, par exemple, j'aurais fait l'exact inverse de ce qui a été fait sur l'impôt sur le revenu, pour appeler un chat un chat.
Roland Lescure, vous avez pris le micro.
Oui, la bombe démographique est un vrai sujet, parce qu'en plus elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des pays développés qui vieillissent, qui polluent plutôt plus que tout le monde, et des pays en émergence qui, eux, sont en train de polluer davantage chaque jour qui passe, mais polluent quand même en moyenne moins que nous, et qui sont en plus dans une évolution démographique. Elle n'est pas facile, celle-là, parce que c'est vraiment celle qui a un impact direct sur la complexité des négociations multilatérales. Parce qu'on arrive dans les négociations internationales en donnant les leçons, en disant qu'il faut réduire, et les pays émergents disent vous êtes bien gentils, mais ça fait maintenant 2 siècles que vous y mettez, vous, et nous on arrive les derniers et on devrait réduire autant que vous. Donc elle n'est vraiment pas simple. J'ai pas énormément de solutions là-dessus, mais vous avez raison, ça fait partie du défi. Sur la fiscalité, moi personnellement, ça fait des années que je suis contre les taxes affectées. la fiscalité affectée. C'est-à-dire qu'on prend une impôt et on dit celui-là, on va l'affecter à une politique. Alors c'est très utile pour les parlementaires parce qu'il y a une chose qu'adore Bercy, c'est quand il y a des sous, on les prend et on essaye de ne pas trop les rendre parce que ça fait des années qu'on essaye de réduire les dépenses publiques. Alors c'est vrai que pour un parlementaire, quand on veut financer une politique, on crée une taxe, on l'affecte, on se dit au moins celle-là, elle va rester. Mais moi, je considère que c'est finalement assez inefficace. C'est-à-dire que si on arrive à taxer, par exemple, l'essence de manière importante et qu'on arrive à générer des recettes fiscales, à condition qu'elles permettent de financer des dépenses publiques souhaitables et efficaces, il n'y a pas de raison que ce soit directement affecté à la transition écologique. Les gens qui disent les dépenses publiques, c'est les poches de Bercy et les grippes sous de Bercy, non. Essentiellement, les dépenses publiques, c'est des infrastructures, c'est des retraites. Pour une transition écologique, sans doute pas assez, c'est de la sécurité. Et toutes ces dépenses sont tout à fait souhaitables. En revanche, il faut avoir une approche budgétaire de la transition écologique, qui ne passe pas par des taxes affectées, mais qui se dit, à chaque fois qu'on fait un budget, il y a un certain nombre de gens très sérieux qui l'ont proposé, on le regarde, on le lit à l'aune de la transition écologique. Est-ce que ce budget, qui est efficace politiquement, qui a des bonnes conséquences sociales et autres, sur lequel il y a des débats politiques, mais est-ce qu'il a aussi un impact marginalement positif sur la transition écologique ou pas? Et ça, franchement, on ne le fait pas.
Kathleen Schubert et Delphine Bateau.
Allez. Juste un petit mot sur la fiscalité. En fait, je suis pas tout à fait d'accord quand même avec vous parce que les taxes traditionnelles, c'est des taxes de financement. Ok, on rentre ça dans le budget général et ça sert à financer l'ensemble des dépenses publiques, d'infrastructures et tout. Là, on est dans une problématique un peu différente. C'est des taxes incitatives. C'est des taxes, la taxe carbone, qui n'ont pas comme finalité de récupérer de l'argent pour financer les dépenses publiques. Donc, ça se présente de façon, à mon avis, un petit peu différente. Bon, maintenant, quant à la façon dont il faut utiliser les recettes, je pense qu'il n'y a pas du tout de position dogmatique là-dessus. C'est extrêmement dépendant, en fait, de la situation du pays au moment considéré. Ça peut varier dans le temps, ça peut varier selon les pays. Pour te répondre, nous, dans la note, là, pour le CAE, on a proposé d'utiliser ces recettes supplémentaires de l'augmentation de la fiscalité carbone pour redistribuer, pour faire que cette fiscalité ne soit pas régressive, donc pour rendre l'argent aux 5 premiers déciles, disons. Mais c'est très contingent, en fait, à la situation actuelle. On aurait pu imaginer de se dire, on va utiliser cet argent pour baisser un autre impôt distorsif. Donc, je ne crois pas qu'il y a de religion ou de théorie ou de dogme là-dessus. Hein. Ça dépend vraiment des circonstances. Et la TVA, on a regardé la TVA, en fait, ça ne fait pas le travail parce que ça ne redistribue pas suffisamment vers les catégories les plus défavorisées de faire ça. Donc on a regardé, on s'est dit que finalement, ce n'était pas le bon instrument. Bon. Ah, sur la démographie, oui, juste un petit point. J'avais un peu regardé les chiffres là-dessus. C'est vrai qu'à long terme, la meilleure politique climatique, sans aucun doute, c'est d'arrêter la croissance démographique, c'est clair. C'est bien plus efficace que d'arrêter de manger de la viande ou que de... Bon. Mais évidemment, ça ouvre un champ énorme de... Alors là, de... Oui, il faut payer les retraites aussi, c'est vrai. Mais sur le strict plan du climat, c'est extrêmement efficace, bien sûr.
Delphine Bateau.
Non, mais surtout, c'est faux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où 10% de la population mondiale est à l'origine de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la croissance infinie de la population mondiale n'est pas possible et n'est pas soutenable. Mais par contre, considérer qu'aujourd'hui, le seul problème serait un problème d'un trop grand nombre d'humains sur Terre, c'est erroné, si vous voulez, par rapport à une dimension fondamentale qui est que le problème est le mode de civilisation thermo-industriel. Et que c'est d'abord ça la question à régler avant de, effectivement, maîtriser la croissance de la population mondiale. Et il y a une seule solution démocratique pour le faire, c'est l'émancipation des femmes. Partout dans le monde où les femmes accèdent à l'éducation, au travail, à l'emploi, à une vie professionnelle, à l'égalité des droits, au pouvoir politique, la transition démographique se fait mécaniquement. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre stratégie, si vous voulez, de maîtrise de la croissance de la population mondiale que l'émancipation des femmes. Voilà, c'est ça la voie à mes yeux à suivre. Sur les instruments de politique économique, moi, ma hiérarchie valable, c'est un, la norme, deux, l'investissement public et privé, trois, les taxes. Un, la norme, si vous voulez, parce que par exemple, ça peut être interdit tout de suite. Tout de suite. Il n'y a aucune impossibilité technique, etc., qui justifie qu'il y ait encore des bouteilles d'eau en plastique en France. De la même façon, le glyphosate, ça peut être interdit. Et les politiques de volontariat sont un échec total. Ça fait depuis plus de 10 ans, plus que ça, le Grenelle, oui, 10 ans, 12 ans, voilà, qu'on dit qu'il va y avoir un plan éco-phyto, les gens vont être responsabilisés, on va en sortir, etc. Les quantités augmentent. C'est même pas que ça ne marche pas assez vite, c'est qu'il se passe dans la réalité l'inverse. La quantité de pesticides utilisés en France augmente. Donc, à un moment donné, quand un produit est dangereux, il y a une responsabilité des pouvoirs publics à l'interdire. On peut prendre une multitude d'exemples. Donc il y a toute une série de choses sur lesquelles la norme, c'est-à-dire le standard défini démocratiquement par la société, effectivement est un levier extrêmement puissant pour agir vite. L'investissement public, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, et il y a des besoins. Donc aujourd'hui, comme ça a été très brillamment expliqué, il a été diminué. Par exemple, encore l'année dernière, les aides aux économies d'énergie, investissement public, ont été divisées par deux. Troisièmement, les taxes. Alors là, je voudrais tordre le cou à une légende, c'est que la taxe carbone aurait été créée pour l'écologie. Bon. Je vais vous raconter la scène, parce que comme c'est du vécu, vous allez tout de suite comprendre. C'est un dimanche de novembre en 2012, je suis en voiture, en train de rentrer d'un déplacement ministériel, mon téléphone sonne, c'est Matignon. Oui, mardi, il va y avoir des annonces, on va créer un crédit d'impôt compétitivité. Et dans le cadre du financement du crédit d'impôt compétitivité, le Premier ministre et le Président de la République envisagent de créer une fiscalité écologique. Ils voudraient savoir ce que tu en penses. Et j'ai dit, ce que j'en pense en fait est très simple, je suis contre. C'est-à-dire que si une fiscalité... En plus, il y avait une démarche qui était créée avec le Comité pour la fiscalité écologique pour créer une logique de taxe carbone, convergence fiscale, essence diesel, mais dans une perspective qui a un fondement écologique. Ce que je voudrais expliquer, je peux prendre cet exemple-là et je peux vous raconter toute l'histoire de la taxe carbone des origines à nos jours, mais c'est que dès le départ, le ver est dans le fruit, parce que dès le départ, en fait, si les dirigeants Bercy, etc., ont approuvé l'idée de créer la taxe carbone, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une recette fiscale supplémentaire et que comme ils augmentaient déjà la TVA pour financer le CICE, ils se sont dit « l'écologie, c'est pas mal pour prendre un impôt supplémentaire sur les ménages ». C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens se révoltent. Parce qu'en fait, pour la pensée économique dominante, Bercy, etc., la taxe carbone n'a jamais été conçue pour sa fiscalité environnementale. Et si elle était conçue pour sa fiscalité environnementale, le débat n'est pas un débat technique de savoir si la taxe doit être directement affectée ou si le même budget est redéployé vers l'écologie. Ça, on peut en discuter, c'est un débat assez secondaire. Mais le fait de dire que s'il y a une recette fiscale de plus de 10 milliards d'euros par an, effectivement, on doit mettre 10 milliards d'euros par an supplémentaires parce qu'il y en a besoin sur la politique de décroissance énergétique, sur la sobriété, etc., sur l'accompagnement des ménages et la création d'une sorte de sécurité sociale et écologique par rapport à ceux qui subissent des inégalités environnementales criantes et qui, effectivement, sont dépendants de la bagnole pour aller au boulot parce que c'est aussi la résultante d'une politique de l'aménagement du territoire, de la rond-pointisation de la France, des surfaces commerciales qui sont loin, des commerces en centre-bourg qui ont été, etc., etc. Voilà. Mais il y a un problème majeur. Et ce problème-là, on le vit aujourd'hui pour toutes les politiques environnementales, pas que pour la taxe carbone. On est dans une situation, par exemple, vous aviez un principe pour la politique de l'eau, qui était que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que les recettes de redevances, etc., sur la politique de l'eau devaient financer la reconquête de la qualité et de la quantité d'eau. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une logique de prélèvement budgétaire pour le budget général de l'État. Donc, en fait, on met de moins en moins d'argent pour l'écologie aujourd'hui en France, alors qu'on devrait au contraire accélérer et multiplier dans des ordres de grandeur raisonnables. Avec Alain Grandjean dans le débat national sur la transition énergétique, les ordres de grandeur, si vous voulez, de l'effort budgétaire à faire chaque année, il n'est pas hors de portée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui est infaisable, inimaginable. On est sur des ordres de grandeur qui sont accessibles à une politique économique crédible et réaliste.
Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne. On va poursuivre les débats pour la deuxième table ronde. Roland Lescure, vous vouliez ajouter une dernière réaction ?
Je voulais juste ajouter un truc pour terminer, parce qu'en fait, on en a peu parlé, et on a parlé d'engagement. C'est quand même parler une seconde d'Europe. Et évidemment, je ne vais pas faire campagne pour qui que ce soit, mais un des grands enjeux écologiques aujourd'hui, c'est l'enjeu européen. Et donc, s'il vous plaît, dans 10 jours, votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Parce que l'élection européenne, le niveau européen, sur les gaz à effet de serre, sur la compétition entre les agriculteurs français et allemands, sur tous les enjeux de présence de l'Europe, comme un modèle qu'on espère plus vertueux que d'autres, c'est aux élections européennes qu'elle va jouer. Donc, allez voter pour qui vous voulez, mais s'il vous plaît, allez voter, surtout les jeunes.
Merci Roland Lescure. On va justement parler des acteurs à mobiliser pour vivre cette transition énergétique. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour vos interventions, vos éclairages.